C'est 12 degrés sur Québec, c'est nuageux. Je sais pas si dans votre secteur il pleut, mais si c'est le cas, c'est pas normal. Maximum de 15 degrés. Selon Environnement Canada, il pleuvra pas. Peut-être ce soir, un 30% de probabilité d'averse. Minimum de 7 degrés. Pour ce qui est de demain, jeudi, ce sera généralement nuageux avec un maximum de 15. Et vendredi, ce sera de la pluie. Maximum de 9 degrés. Pascal CV qui apprivoise son nouveau corps. Elle se fait dire qu'elle est plus grande maintenant.
Tout le monde dit que je suis plus grande aujourd'hui. J'ai fini ma poussée de croissance. Là.
Oui?
J'ai pas, je fais 5 et 7 comme d'habitude.
Tu peux pas grandir à 30 ans.
J'ai pas un gros talon. Là.
Ouais, ben, t'as des petits talons. Là.
Non, mais. Mais je veux dire, c'est quoi? C'est même pas un pouce.
Mais moi, je pense que c'est ton entraînement qui fait en sorte que tu te tiens plus droite qu'avant. Ça se peut-tu?
Que je me tiens plus droite qu'avant.
Ben, tu sais, on a toute tendance à.
Fait que j'avais
un
gros dos courbé à la Quasimodo, puis tu me l'avais jamais dit avant.
Quand on regarde des vieux monsieur comme Louis Gauthier, là, tu sais, ils marchent, sont grands, ils marchent, puis ils ont comme la tête un peu penchée par en avant. Mais quand tu t'entraînes, tu deviens comme plus droite. Puis je pense que c'est ça qu'il a remarqué en toi.
Okay, tu sais, quand tu me dis ça, là, Yannick, là,
oui,
j'ai l'impression d'être ça à glace, puis j'ai un gérant d'estrade de l'autre bord de la baie vitrée qui
ben,
essaie de baver le joueur.
C'est mon quotidien. Non, mais là, je pense pas que je me tiens plus droite.
Ben, je pense que oui. C'est
non.
Quand tu t'entraînes,
écoute,
t'as
plus
une meilleure posture.
T'as pas pris de poids. T'es plus mince qu'une barre sur un pyjama rayé.
Enfin... Hey, Louis!
Mais est-ce que vous le diriez à vos... Ça se
pas
dit pas, je pense.
Ça se dit pas.
De quoi, ça?
Mais tu sais, mettons, peut-être toi moins, mais Yannick et moi, on se voit à chaque jour, on se parle à chaque jour pour le meilleur et pour le pire. Si à un moment donné, il voyait que mes habitudes de vie sont mauvaises pour moi, mais tu te poserais-tu une question, ça va-tu ces temps-ci?
Ça fait partie de la non-acceptabilité sociale de ces jours. Tu peux plus porter de commentaires.
Tu dis pas ça à ta collègue, tu dis encore moins ça à ta blonde.
Hein? Non, ça. Elle m'a dit rien à faire parce qu'une seconde après, elle veut. Elle veut, elle.
Hey Louis, t'es arrivé un accident hier avec un chauffeur de camion. C'était à la sortie du pont Pierre Laporte. Je veux que tu m'expliques la manœuvre parce que je la comprends pas. Comment le gars, qui est un camionneur de l'extérieur, disons ça comme ça.
Oui.
Comment le gars peut penser que c'est tout à fait logique de reculer sur l'autoroute puis après ça, prendre un angle de 45 degrés pour aller prendre une autre sortie qu'il n'était pas capable de prendre, visiblement, s'il n'avait pas reculé?
On n'est pas la première. On n'est pas la seule place dans le monde où, à la sortie d'un pont, tu as différentes sorties pour prendre des voies, pour aller prendre une voie de circulation.
Si t'arrives, ça
arrive
sud.
Comme l'autoroute 20.
Exact. Si t'arrives, ça arrive sud par les ponts, t'as une coupe d'embranchement. T'en as une pour aller prendre le pont de du parc Chaudière. Tu sais, les chutes, là.
Quand tu sors du pont, t'as la bretelle pour aller prendre la 20 en direction ouest, la 20 en direction est vers Lévis.
Mais attends un peu. T'as la première, t'as la chute Chaudière. Ça, il a passé cette première-là.
Oui,
après ça, il y avait trois choix. Montréal, Gaspésie ou bien Saint-Georges-de-Beauce. Lui, qu'est-ce qu'il a fait hier? Là?
Lui... Il s'est engagé dans la bretelle 20 direction ouest, donc direction Montréal, mais il devait vouloir s'en aller soit vers Lévis ou soit vers Saint-Georges. Il a reculé, puis dans la zone hachurée, là, qui est comme un triangle inversé, il a décidé de reculer puis de s'engager vers la gauche pour aller prendre la bretelle qui était soit Saint-Georges ou Lévis. Puis, il est arrivé ce qui devait
arriver.
Mais
déjà, reculer, là, c'est pas
sur
un problème, ça, mettons?
Non, bien, tu sais, il a à peine reculé. Mais il a tourné le devant de son camion. Il était avec une vanne de 53 pieds. Il a tassé son camion vers la gauche pour aller prendre la bretelle, puis il s'est fait rentrer dedans.
Est-ce que ce gars-là peut être arrêté pour négligence criminelle, ayant causé des blessures?
Ce chauffeur-là devrait être arrêté. Son permis devrait être suspendu. Maintenant, c'est de savoir si la Sûreté du Québec, parce que c'est la Sûreté du Québec qui patrouille, c'est une route provinciale, donc c'est la Sûreté. Est-ce que la Sûreté du Québec a émis un constat d'infraction envers le chauffeur, envers la compagnie de transport, parce que tout le monde y passe là-dedans, là. Si la remorque, elle est louée, exemple, à une location de remorque, la location de remorque a un billet d'infraction, le propriétaire du camion, le propriétaire du, ce qu'on appelle le PEVL, le permis de propriétaire exploitant de véhicule lourd, a un billet d'infraction, puis le chauffeur a un billet d'infraction. Dans un cas de même, c'est suspension du permis et tout, là.
Oui, puis t'envoies toute l'information à ces chums. Ne faites plus ça, parce que ça va, il va y avoir le même résultat.
Mais mettons en voiture, toi tu conduis, là, tu manques ta sortie. Bon, t'as 20 ans, tu paniques peut-être un peu, tu penses que, mais tu continues,
mais je continue,
tu reviens.
Continue, prends une autre sortie,
ça devrait pas être,
sur l'autoroute.
Là, t'as un camion, là, c'est un, Je suis dans le jugement, je l'avoue. Là.
Mais t'as raison d'être dans le jugement, ça n'a juste pas de maudit bon sens. Puis de voir que ces gars-là arrivent ici, ils font affaire avec leurs chums qui ont des écoles de conduite. C'est toute une patente organisée. Là. Puis en 24 ou 48 heures, ben on leur octroie la permission de conduire un poids lourd à la grandeur du Canada. Ça devrait être considéré comme criminel.
As-tu idée le nombre de fois qu'on a parlé de ça au micro depuis même pas 3 mois?
Hey, mon chef de régie est sur le dossier. T'sais, s'il y en a un qui travaille fort sur ce dossier-là, c'est lui. Là. J'y en parlais encore la semaine dernière. Lui, il est flabbergasté que ça fonctionne comme
écoute,
ça.
Écoute, tu parles à Benoît Thérien, tu me parles. J'en fais un débat social depuis les 2 dernières années. Puis on voit encore des épisodes comme ça. Quand je vous ai dit que ça arrivait à Montréal depuis 10 ans, puis qu'on n'était pas loin de la journée où ça allait arriver dans la région de Québec... Mais on l'a eu hier encore.
Toi, tu m'en as déjà parlé, mais un de mes chums qui est conducteur de camion, lui, il fait du Québec-US, mais il doit passer par l'Ontario, je sais pas trop pour quelle raison. Puis très souvent, ça arrive...
C'est le port d'entrée, probablement.
C'est le port d'entrée. Très souvent, ça arrive qu'il rencontre un gars qui est un peu patenté, comme on s'est dit. Là, lui, il est arrivé ici, il a fait affaire avec un de ses chums, on lui a donné un permis de, le permis de conduire ce véhicule-là. Puis ça arrive souvent qu'il doit reculer le char des gars à la gate.
Ah,
parce
ben
que,
oui.
Parce que sinon, ils vont prendre du retard, puis lui, ben, il ne sera pas à temps pour son prochain rendez-vous. Là.
Moi, ça m'est arrivé à Détroit il y a plusieurs années, l'endroit de l'inspection des aliments là, au nord-ouest de Détroit. Puis écoute, tu peux reculer là, c'est un aveugle peut reculer une remorque. Parce que c'est tellement grand, là. Puis là, le gars vient me voir et aidez-le. Il est en train de congestionner la place. Ils sont pas capables de reculer. Puis là, t'es pogné pour les reculer. Là, tu dois casser le cil, qui est comme un clou. Là, ils arrivent avec leur paire de pinces. Les pinces, ils sont maganés comme ça se peut pas. C'est que tu vas dans ton camion, va chercher les pinces, pète le cil, rouvre les portes, recule cela. Puis ils sont deux dans le camion. Puis là, tu passes à côté du camion quand ils rouvrent la porte, là. Puis c'est loin d'être des odeurs épicées de bonne qualité.
Ah ouais.
Mais là, tu te demandes tout le temps, tu sais, on veut de moins en moins de gérance gouvernementale, tu veux moins en moins de réglementation, puis tu sais, on clame souvent, nous autres, on veut que ça avance les affaires, on veut que ça soit du monde qui travaille, puis ça se passe bien, puis des fois, la compétition privée va aider dans... Mais dans ce cas-ci, là, la réglementation...
Elle existe.
En pleine pénurie de main-d'œuvre, que ce soit des organisations avec une vigile importante... Pourquoi ça se fait pas? Il y a des métiers dans ma tête que le va-vite à l'employabilité ne devrait pas exister, puis c'est une résonance. Je veux dire, tu mets quelqu'un ici là, en onde, t'as pas de formation en radio, mais tu t'exprimes bien, t'es un personnage, puis au pire, tu vas te faire envoyer parce que tu dis des insanités, puis on va être capable de te réguler, mais dans une entreprise, une industrie comme le camionnage, comme en santé, je trouve ça difficile qu'il n'y ait pas plus de serrage
pas...
de vis.
Il y a un auditeur qui m'écrit, il dit « Salut la gang, je suis camionneur. J'étais juste derrière ce dit camionneur. Ça s'est produit. Je m'en allais à Saint-Georges. Je sais que tu peux pas le dire, mais c'était un autre gars qui a eu son permis en 24 heures. Comment ça que je vois autant de choses comme ça de la part de ces chauffeurs-là? Même les propres camionneurs se sentent pas en sécurité avec ces gars-là sur la route.
Il y a deux endroits au Canada où, pour avoir ton permis de conduire classe 1, tu dois suivre un cours de 4 mois. Tu peux suivre un cours plus court si tu es capable de passer le cours, mais tu dois aller passer ton examen de conduite à la SAC, comme n'importe quel examen, puis celui-là, il est 3 fois plus important. Et en Colombie-Britannique. Lorsqu'on va être capable de fédéraliser les cours de conduite, d'être sur la même longueur d'onde tout le monde, là, le problème, c'est en Ontario. Ils vont tous suivre leurs cours en Ontario. Ils ont des lieux d'affaires en Ontario qui rouvrent des bureaux satellites dans le coin de Montréal. Puis de cette façon-là, ils sont capables d'avoir...
Que c'est bien organisé.
De la job. Ben oui, ils se sont fait monter un motus operandi. Puis pour répondre à Pascal, ça prend pas plus de gouvernement dans le dossier, c'est d'appliquer uniquement les règles qui existent présentement.
Ça, c'est la police, c'est la sécurité de quoi?
Ben oui, c'est la sécurité publique, c'est la Sûreté du Québec, c'est la GRC qui fait office de policiers provinciaux dans quelques provinces au Canada.
Ça, c'est parce qu'on a une pénurie, puis on a le crime organisé, puis on a la drogue, puis on n'a plus assez de gens pour s'occuper de ça. Ça devient une sous-catégorie de priorité.
Ben, les contrôleurs routiers, c'est leur travail. Ils l'ont fait. Ils ont vérifié des permis de conduire, mais Est-ce qu'on va les faire travailler 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, à toujours vérifier? Parce qu'on a ce problème-là en Nouvelle-Écosse, on a le problème au Nouveau-Brunswick, tout dans les provinces limitrophes à la province de Québec. On est une province transitoire pour aller vers les Maritimes, pour aller vers la Nouvelle-Angleterre, pour aller vers l'Ontario. Ça passe par ici. Puis l'autoroute 20, c'est une autoroute où il y a beaucoup de camions, puis on va en voir. Puis là, ce que vous ne voyez pas, ce que vous allez voir encore plus cet hiver, ça va être des remorques qui vont prendre le terre-plein en plein milieu dans un bout droit. On n'a pas encore ça, là, mais on va le voir. Là. Pareil comme on voit ça 401 depuis quelques années, on va le voir au Québec cette année. Là. Je vous le prédis, on va le voir.
Pourquoi là, on le verrait là, tout à coup cet hiver? Pourquoi ils font ça?
Parce que le volume d'anomalies routières qu'on a remarqué depuis le début de l'année est plus important que l'an dernier. Donc, c'est dans la normalité des choses qu'on va voir une augmentation de ce genre d'accident-là à l'automne, à l'hiver prochain.
Autre sujet que je voulais aborder avec toi, avant de parler de Joe Biden, en fin de semaine, je faisais une lecture sur Ronald Wilson Reagan, qui était président des États-Unis, je pense, de 1980 jusqu'à 1988.
Oui.
Dans ses dernières années de présidence, de ce que j'ai compris, c'est que ce n'est plus lui qui prenait les décisions, c'était sa femme et son astrologue. Hey, 1988, ça fait pas si longtemps que ça, Pascal. Sa femme et son astrologue qui prenaient les décisions présidentielles dans le bureau ovale. Louis, c'est con.
Donald Trump, des fois, il a l'air de jouer aux billes.
Ouais, peut-être. mais tu sais, moi, je me suis toujours rassuré d'être très près des États-Unis parce que je me disais, ben, tu sais, s'il y a des gens qui sont là pour nous défendre, c'est bien eux autres. Puis, tu sais, la façon dont ils sont organisés, ben, je crains pas pour ta sécurité, ça va bien aller. Mais je me rends compte qu'en 88, il y avait un gars qui était assis dans le bureau ovale, qui était mêlé, faisait de la démence.
Surtout la dernière année, là, 86-87, on voyait qu'il commençait déjà à avoir des petits ventes.
Puis t'avais Jojo Medium qui rentrait dans le bureau ovale puis qui prenait des décisions avec la bonne femme. Tabarouette! C'était mal organisé, pas pire?
Bien, c'était mal organisé, mais d'un autre côté, on était en année transitoire parce qu'on était dans les primaires pour la prochaine élection. C'est George W. Bush qui est, George H. Bush qui est devenu président. On se souviendra de cette élection-là. Puis, déjà, la vice-présidence, donc le West Wing, contrôlait beaucoup les 14 derniers mois de la présidence américaine, de tout ce qui était l'administration. Mais Nancy Reagan, lorsqu'on lit les livres de Ronald Reagan et de Nancy Reagan, on sait qu'elle n'a pas eu besoin d'attendre dans les derniers mois. Elle était omniprésente dans le bureau ovale à diriger son mari. Puis c'est de même que ça va marcher, tu sais. Happy wife, happy life. Là, lui, il l'a compris. Il écoutait ce que madame disait.
Mais c'est capoté. Puis t'as madame Minou qui arrivait. Là, la lune est en Verseau, on devrait prendre telle décision. OK, on y va avec ça. C'est fou. Est-ce que tu penses qu'on s'est fait mener en bateau avec Joe Biden?
Joe Biden, moi, dans le livre de Jake Tapper et Alex Thompson, qui est sorti hier, j'ai fait venir le livre, là, j'ai hâte de le lire, parce que je me demande si je vais apprendre quelque chose de nouveau. Mais ce que je remarque là-dedans, c'est le camouflage médiatique qu'il y a eu. Joe Biden, le dernier fit test qu'il y a eu, là, les fameux examens de la prostate qu'on a à partir de l'âge de 40-45 ans pour savoir si on a des problèmes de ce côté-là, ça remonte dans son cas 2014. Es-tu en train de me dire que pendant ces 4 années à la présidence, chaque rapport médical qui sortait à chaque année pour un président, savoir s'il est en état de santé, ils ont tous dit pendant ces 4 années qu'il était en parfaite forme, en parfaite santé, c'était de la bullshit?
C'est ce qu'on peut présumer, là.
Bien, c'est carrément ça.
Ouais.
Puis moi, je me souviens, je vous en ai parlé, en 2021, il est allé faire un voyage dans l'Ouest américain. Air Force One revient à la base militaire d'Andrews parce que c'est là qu'elle est stationnée. Il ventait énormément cette journée-là. Puis les vents avaient frappé, puis je me souviens d'une photo quand il descendait l'escalier. Ça a tellement frappé, là, ses pantalons flottaient au vent, puis ça collait tellement sa jambe gauche que j'ai dit « Voyons donc, c'est quoi ça? » J'ai fait un screenshot de l'image, j'ai agrandi, puis il y avait un sac urinaire, donc il y avait une sonde urinaire. Il y avait déjà des problèmes à l'époque, puis on n'en parlait pas. Et les médias mainstream ont participé à ce camouflage-là. Tout le monde a participé à ce camouflage-là. Et tu me parlais de Reagan à l'époque. Bien, moi, je t'annonce que ça vient confirmer ce que je dis. Les 4 années Biden, c'est la première fois où on a offert la nomination présidentielle de manière honoris causa lorsqu'il était élu, parce que c'est vraiment pas lui qui a pu diriger ça.
Qui gérait le bureau ovale? Il y a eu des rumeurs comme quoi l'ancien président était beaucoup dans l'entourage.
L'ancien président a été beaucoup dans l'entourage, qu'on soit allé chercher Kamala Harris comme vice-présidence avec toute l'équipe. C'est qu'on a vraiment poussé, je te dirais, cet agenda de la gauche politique, la centre-gauche politique, je te dirais, aux États-Unis, qui a poussé énormément. On a vu des décisions qui se sont prises. On a parlé du nombre de décrets que Donald Trump a signé lorsqu'il a pris la présidence le 20 janvier dernier. Dans le cas de Biden, il y en a eu 35 à l'époque qui a signé en même pas 23 minutes. C'était impossible, là. T'sais, il n'y avait pas. C'était techniquement impossible qu'il puisse signer des documents qu'il n'avait même pas eu le temps de lire ou de comprendre. Puis là, ben, on voit, pendant le débat des primaires entre les deux présidents, le fameux débat désastreux qu'il y a eu entre Joe Biden et Donald Trump, lorsque Joe Biden se fait répondre une question, puis que Donald Trump il dit ben, regarde, je comprends même pas ce qu'il vient de dire, puis je pense pas qu'il comprend ce que lui vient de dire. Et c'était, on se demande pourquoi qu'on l'a envoyé à l'abattoir pour la présidence, qu'on n'a pas mis toutes les chances un an plus tôt que de permettre à Kamala Harris, et j'en ai parlé, elle aurait dû rentrer, ça aurait peut-être aidé aux chances des démocrates d'avoir un meilleur score. Mais il est arrivé ce qui est arrivé. Moi, ce qui me sidère, c'est de voir qu'on fait un livre là-dessus aujourd'hui, alors que tout était connu, mais à l'époque, quand on en parlait, on se faisait traiter de conspirationniste. Puis là, on est en train de mettre ça sur un livre qui va devenir un best-seller, puis qu'on n'en revient pas.
Ouais. Mais si ça s'est fait avec Reagan, on peut présumer que ça s'est fait aussi avec Biden, mais
Reagan,
d'une façon
ça s'est fait,
tôt.
Ça s'est fait avec, mais n'assumons rien, avec Roosevelt pendant à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans son troisième mandat, quand Harry Truman a pris.
Ouais. Mais n'assumons rien. En même temps, je veux dire, à travers le monde, les gens aussi, des fois, gèrent avec la religion. Là, c'est pathétique ou d'être revancheur comme Vladimir... Je me trompe.
Volodymyr?
Non, pas Zelensky, je m'en allais pas là.
Tu veux dire Poutine? T'es-tu en train de faire du Biden?
Je pense que j'ai besoin d'aide. Y a-tu mon astrologie à quelque part? Mais honnêtement, c'est particulier. Puis c'est là qu'on veut tellement diviser la politique. Puis on peut refaire un point avec nous. Puis François Legault, puis qui dit que sa femme ne veut pas le revoir à la maison lors du prochain mandat, puis aux prochaines élections. T'sais. La pression des pères devrait se faire juste dans la sphère personnel, du genre, veux-tu vraiment encore être dévoué à la politique parce qu'on sait que c'est une dévotion complète, mais pas, tu devrais prendre telle position parce que c'est pas eux qui ont été élus. Ça peut être de bons conseils, mais...
C'est souvent, Pascal, les gens qui sont au pouvoir, c'est souvent eux qui ne prennent pas. Ils sont porteurs de la décision, mais ce sont souvent eux qui ne prennent pas la décision.
Par rapport à une équipe élue derrière, par rapport à une équipe politique.
Pas nécessairement. Tu as des conseillers politiques. Jean-François Lisée, quand il était conseiller politique, soit de René Lévesque ou même de Robert Bourassa, à l'époque, c'était un non-élu. Puis c'était un conseiller politique.
Mais
les conseillers politiques sont non-élus. Oui, je comprends.
Tu peux engager des consultants, mais c'est vrai, comme Yannick dit, c'est particulier de voir que ce soit le mari ou que ce soit... la femme, là-dedans, commençait à avoir un impact politique beaucoup plus grand que celui qui est au personnel.
Tu sais, au Québec, on présume que Koski de Husky, Martin Koskinen, en mène large. Là.
Ben oui.
Tu sais, on le voit sur Internet, il prend des décisions, des fois, de mettre certains commentaires que tu te dis, t'as peu, là, si j'étais François Legault...
Ben, c'est le chef de cabinet.
Je serais un peu outré. Mais oui, c'est le chef de cabinet, puis il doit prendre aussi certaines décisions ou influencer certaines décisions de François Legault, nécessairement.
Mais tous les chefs de cabinet, les amis, ce sont des personnes non élus, et c'est eux qui ont la main sur le volant la plupart du temps, les chefs de cabinet. C'est eux qui dirigent aux ministres, aux députés du parti, l'agenda qui doit se faire dans la journée. Alors, ce qui est triste aujourd'hui, c'est de voir qu'on a un président que je vais qualifier d'historique dans l'histoire, parce que, comme je vous le disais, c'est quand même une nomination honoris causa Joe Biden pour l'ensemble de sa carrière, qui finira pas l'année, parce que son cancer est très agressif, il a atteint les zones osseuses. Donc, je trouve particulier là, que c'est pas le temps de frapper sur quelqu'un. Moi, j'ai jamais frappé sur quelqu'un qui est déjà à terre. J'en ai parlé, j'ai trouvé ça. C'était pas, j'en avais pas contre l'individu, j'en avais contre la fonction qu'il exerçait. que c'était pas bienvenu, mais les États-Unis, comme le Canada, comme d'autres pays, pendant ces quatre années-là de pandémie, parce qu'il a dirigé les États-Unis surtout pendant ces quatre années-là, bien, en Grande-Bretagne, ils ont passé trois puis quatre premiers ministres, là, tu comprends? Fait que, tu sais, tout le monde a eu son fardeau à vivre à l'époque, ouais. Mais dans le cas de Biden, malheureusement, ça finit pas sur une bonne note, son dossier.
Ouais. Puis ce qui est weird, là, c'est que, tu sais, il y avait plein de conspirationnistes qui parlaient, là, il y a de ça, quelque temps avec Biden, en disant que le plan, c'était de mettre Kamala Harris. Qu'est-ce qui serait arrivé? Si Biden avait remporté, qu'est-ce qui serait arrivé là, là?
Ben, écoute, c'est Kamala Harris, la présidente américaine.
Ouais. Les conspirationnistes.
Non, mais tu sais, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, mais ouais. on fera pas ça aujourd'hui, c'est pas arrivé. Puis là, on est avec un président qui est dans son deuxième terme, qui est Ronald Reagan, pas Ronald Reagan, mais Donald Trump, qui, lui, il dit des niaiseries, là, il va faire un bouclier nucléaire tout en or à la fin de son terme. C'est la même affaire que Reagan avait parlé à l'époque, c'est la même affaire qu'on avait parlé au début de la guerre froide, ça se fera pas. Puis le Canada a décidé de tomber dans le bain pour dire que nous autres, on va investir là-dedans. Le Canada, avant de penser à investir partout, comme dire qu'ils vont embarquer dans le lot de 500 milliards de dollars de reconstruction de l'Ukraine, ils devraient peut-être penser à nous présenter un budget avant l'automne.
Exactement. Louis Gauthier, chroniqueur international, je te remercie. Je te souhaite de passer une belle semaine.
Ce fut un plaisir.
Salut,
de
Québec.
Garnir votre quotidien.
Salut, merci, on vient. 102.1.